Le journal vous est présenté par Yves Decamp. Bonsoir Yves.
Bonsoir. La petite Vanille est morte. Son corps a été retrouvé cet après-midi dans une benne à vêtements à Angers. La fillette, âgée d'un an, n'avait pas été ramenée par sa mère dans sa famille d'accueil. La mère, retrouvée ce matin dans un hôtel de Nantes, a avoué le meurtre. 42 départements en alerte orange au vent violent dans le nord, l'ouest et l'est. Les transports aériens, maritimes et ferroviaires sont perturbés. Les ports de Douvres et Calais fermés. L'aéroport de Lille également. Des liaisons TER sont interrompues dans l'est. Attention sur le littoral. Au risque de vagues submersion, une situation qui devrait se prolonger jusqu'à demain soir. Dans ce journal également, une centaine de tests au coronavirus effectués ce dimanche au Contamine Montjoie. On attend les résultats, mais pas de quoi s'inquiéter, répète la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Faut-il accompagner la vie sexuelle des handicapés? C'est ce que demandent les associations. La secrétaire d'État, Sophie Cluzel, demande au Comité national d'éthique d'y réfléchir à nouveau. Comment financer la transition écologique? Les 150 Français de la Convention citoyennes ont déjà des propositions à faire. À qui la statuette du meilleur film? Les Oscars, c'est ce soir à Los Angeles avec en vedette notamment deux films d'animation français. Et puis en sport, pas de problème en rugby pour les Bleus, vainqueurs des Italiens dans le tournoi 24-17. PSG Lyon à l'affiche de la Ligue 1 ce soir. Et puis Teddy Riner battu sur le tatami, il fallait bien que ça arrive, c'était à Bercy ce matin. Mieux vaut aujourd'hui qu'au JO de Tokyo dans 6 mois. Le Journal des Sports, c'est avec Cédric Guillou dans un instant.
France Inter.
Elle avait été enlevée par sa propre mère vendredi. La petite Vanille, un an, a donc été retrouvée morte ce dimanche à Angers. Un décès dont les causes restent à déterminer. Une alerte enlèvement avait été déclenchée dans la soirée d'hier alors que la fillette n'avait pas été ramenée dans la famille d'accueil à laquelle elle était confiée. Ce matin, la maman avait été retrouvée dans un hôtel de Nantes, mais sans son enfant. Le procureur de la République d'Angers a donné ce soir les dernières précisions.
Sans doute, dès vendredi après-midi, la maman n'avait plus son enfant avec elle. Et elle a fini par indiquer, dans le milieu d'après-midi, qu'elle avait donné la mort à son enfant, a accepté de dire où elle avait déposé le corps de son enfant. Et il y a quelques minutes, le corps de la petite fille a été découvert sur la région d'Angers. La maman l'avait déposé dans une benne à vêtements à côté de chez elle, et elle a conduit des enquêteurs à cet endroit. Le médecin légiste est actuellement sur place, va faire les premiers examens pour savoir comment la mort a été donnée. La maman avait parlé d'un étouffement ou d'une strangulation. Ce sont des choses qui vont être vérifiées dans les heures à venir. Voilà ce que je peux malheureusement vous dire. Il va être mis fin, sans fin heureuse, au dispositif alerte enlèvement, qui nous aura, ceci étant permis, de retrouver le plus vite possible le corps de l'enfant et de la traiter un peu plus décemment qu'elle l'était.
Voilà Éric Bouillard, le procureur d'Angers, sur les raisons de son geste. La maman n'a pas donné d'explication. Le procureur souligne également qu'aucun élément ne permet d'établir une quelconque complicité. Rassurer la population au Contamine Montjoie, en Haute-Savoie. On attend maintenant le résultat des tests au coronavirus effectués toute la journée sur les familles, les enfants, tous ceux qui ont pu être en contact avec les 5 Britanniques contaminés et hospitalisés sans aucun signe de gravité à ce jour. Mais par précaution, une cellule de dépistage avait été installée ce matin dans la station de Haute-Savoie où l'école restera fermée toute la semaine. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui s'est rendue au Contamine, s'est voulue de nouveau rassurante et c'est ce que veut être aussi Patrick Peloux, le président des médecins urgentistes, interrogé par France Info.
On sait qu'une personne qui est infectée par le coronavirus, en gros, elle risque de contaminer 2 personnes. Donc, c'est une contagion qui est très faible. Donc, il ne faut pas paniquer, il ne faut pas avoir peur des Asiatiques, il ne faut pas avoir peur des gens qui ont un rhume. Nous sommes en pleine saison où il y a des rhumes. Bon, voilà, il faut savoir raison garder. Pourquoi ? Parce que, justement, vous avez une mobilisation exceptionnelle de la Direction Générale de la Santé, des systèmes de santé en France. C'est là où on s'aperçoit qu'un bon service public de santé publique et hospitalier, ça donne d'excellents résultats, puisque nous sommes avec une pandémie qui est vraiment totalement sous contrôle et on surveille de partout ce qui se passe, donc faut pas en avoir peur. Il y a eu plus de morts cette semaine de la grippe saisonnière en France et des accidents du travail. Et les gens qui vont partir dans ces stations de ski ont plus de chances de se faire des fractures de membres en faisant du ski que de choper le coronavirus.
Voilà, à ce jour, 11 personnes ont été testées positives en France, où seul l'état de santé d'un ressortissant chinois de 80 ans suscite encore des inquiétudes. En début d'après-midi, un nouveau contingent de rapatriés est arrivé de Chine, une trentaine de personnes qui resteront en quarantaine 14 jours. En Chine, justement, le bilan de l'épidémie se chiffre ce soir à 811 morts. Mais le nombre des contaminations semble maintenant stabilisé. À noter que les passagers d'un paquebot bloqué à Hong Kong ont été libérés, entre guillemets, tous les tests s'étant avérés négatifs.
France Inter, Yves Decamp.
C'est un sujet sensible et délicat, sujet tabou en France et pourtant si naturel. Faut-il accompagner la vie sexuelle des handicapés ? Dans beaucoup de pays, la question ne fait plus débat depuis longtemps. Et c'est sur leur modèle que la secrétaire d'État en charge des handicapés, Sophie Cluzel, propose aujourd'hui d'avancer dans une lettre publiée par le Journal du Dimanche. Une lettre au professeur Delfraissy, le président du Comité National d'Éthique. Elle propose de rouvrir la réflexion en abordant ce sujet de l'assistance sexuelle dans une vision renouvelée. C'est d'ailleurs ce que demandent les associations. Béatrice Duguay.
Une démarche qui affronte, vous l'avez dit, un tabou français, pourtant encadré au niveau international, explique Pierre Ancet, maître de conférence de philosophie des sciences, qui a travaillé sur ce sujet.
La sexualité, comme le rappelle l'OMS, fait partie de la santé. Il y a une santé sexuelle à laquelle a droit toute personne.
Son ami Marcel Nuss l'avoue, il ne s'attendait pas à ce geste de la secrétaire d'État.
J'avoue que c'est une grosse surprise.
Parce que cet homme qui est atteint d'amyotrophie spinale a fondé l'APAS, l'Association pour la promotion de l'accompagnement sexuel des personnes handicapées. Malgré plusieurs demandes, il n'a jamais rencontré Sophie Cluzel. Or, depuis 5 ans, l'association forme précisément des assistants. Il réclame aujourd'hui un cadre légal.
Nous, ce qu'il nous faut, c'est l'exception à la loi sur le proxénétisme. L'association est proxénète parce qu'on met en relation des personnes handicapées et des accompagnants sexuels. Et donc, comme on refuse les bénévolats, on est proxénète.
Et l'association a reçu 3000 demandes en 5 ans, formé près de 80 accompagnants sexuels. Il est temps de penser à la détresse de certaines familles, justifie Pierre Ancet.
Que fait-on lorsque on est un père, une mère d'un enfant qui devient adolescent, qui a des pulsions, qui ne connaît pas son corps comme réservoir pulsionnel? Qu'est-ce qu'on propose à un homme jeune ou à une femme jeune qui a envie de connaître le contact charnel avec un autre corps et qui ne peut pas le faire du fait de son handicap?
Les accompagnants, il en existe en Allemagne, en Suisse, aux Pays-Bas ou au Danemark.
Béatrice Duguay, ce débat sur les accompagnants sexuels a plusieurs fois été lancé déjà en France sans jamais aboutir. Mais pour le président du Comité national d'éthique, qui le dit au JDD, la société française a aujourd'hui évolué. Plus que 2 mois pour présenter leurs propositions, les 150 Français de la Convention citoyenne sur le climat ont à nouveau planché tout ce week-end pour leur 5e séance de travail. Comment réduire nos émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici 2030? Leurs conclusions devront être remises au président de la République en avril. Reste à s'entendre d'ici là sur la rédaction d'un texte et sur le financement de toutes ces mesures futures. Sandy Dauphin, vous avez assisté au débat ce dimanche et ce qui ressort, c'est que la taxe carbone apparemment n'a pas vraiment la cote.
Cet après-midi, les 150 citoyens ont mis des jetons dans des urnes pour dire leur préférence parmi 5 sources de financement public. On ne peut pas dire que l'augmentation des taxes suscite beaucoup d'adhésion.
33% de jetons se sont retrouvés sur l'idée de recourir à l'emprunt et d'accroître la dette publique. 11% pour augmenter les impôts et les taxes. 39% pour réduire les niches fiscales.
Dans les débats, la taxe carbone est globalement perçue comme socialement injuste, même si certains se risquent parfois à la réhabilité.
Je voulais juste souligner que j'avais consulté un document qui proposait une solution qui me paraissait pertinente sur la redistribution des recettes de cette taxe carbone en fonction de critères donc comme les revenus ou la manière de consommer. Donc peut-être que la retravailler, ça pourrait être pertinent, donc pas trop vite l'écarter quand même.
Il y a d'autres pistes pour financer la transition écologique, explique un expert de l'Institut de l'économie pour le climat. L'argent, notamment l'argent privé, il y en a. Il faut juste le réorienter vers des investissements plus verts, estime Benoît Le Guen.
Il faudrait investir 15 à 18 milliards supplémentaires dans la transition énergétique. Chaque année, c'est quelque chose qu'on peut faire. La première source de financement pour trouver de l'argent supplémentaire pour faire du bas carbone, c'est d'arrêter de faire du marron.
Marron, comme les énergies fossiles, qui représentent 60 milliards d'euros d'investissement l'année dernière en France.
Sandy Dauphin, ils avaient été placés en garde à vue, parfois pendant plus de 24 heures, des lycéens de la région parisienne. Leurs parents et leurs avocats dénoncent une réponse disproportionnée des forces de l'ordre à ce qui n'était de leur point de vue qu'un simple blocage. Les lycéens mobilisés contre le nouveau bac et les épreuves de contrôle continu avaient qui brûlé des poubelles, qui posé des parpaings dans l'entrée d'un lycée. Les trois avocates des familles annoncent qu'elles vont écrire au procureur pour lui demander des explications sur ce qu'elles disent être des irrégularités de procédure. L'homophobie désormais officiellement interdite en Suisse. La proposition de loi soumise à votation a recueilli ce dimanche 63% des suffrages, à l'exception de trois cantons germanophones qui ont voté non. Toute discrimination fondée sur l'orientation sexuelle sera donc désormais passible de poursuites, comme partout ailleurs en Europe. Et puis en Irlande, c'est encore plus serré que prévu. Le résultat des législatives, qui devait être communiqué dans la journée, ne devrait pas être connu finalement avant demain matin. 42 départements en alerte orange au vent violent ce soir, dans le nord, dans l'ouest et dans l'est. Des coupures de courant sont déjà signalées dans les Hauts-de-France, les régions de Dunkerque, Maubeuge et Calais. Les ports de Calais et de Douvres ont été fermés au trafic maritime. De même, de nombreux vols ont été annulés à Lille, à Bruxelles, à Amsterdam, jusqu'à la circulation des trains qui pourraient être perturbés en soirée, notamment les liaisons TER en Alsace. Mais c'est au Royaume-Uni pour l'instant que les conséquences de cette tempête se font le plus ressentir. Laura El-Kaïm nous appelle de Londres.
Des voitures sous l'eau, des rues inondées, traversées par de forts courants et des habitants qui se barricadent. À travers tout le pays, les Britanniques partagent des images impressionnantes, conséquences de la tempête Ciara. Au total, près de 40 000 foyers sont toujours privés d'électricité et dans la ville écossaise de Perth, trois personnes ont été blessées dans l'effondrement partiel du toit d'un pub. Des dizaines de vols ont été annulés ou retardés. Et le service ferroviaire est toujours perturbé. Les Britanniques sont d'ailleurs encouragés à limiter leur voyage jusqu'à demain. La reine Elisabeth a elle aussi eu son programme du week-end perturbé et n'a pas pu se rendre à la traditionnelle messe du dimanche à cause des vents violents. Demain, certaines écoles seront fermées à cause des dégâts causés par la tempête. Selon le service météorologique britannique, les vents commenceront à faiblir en fin de soirée. Londres, Laura El-Kaïm, France Inter.
Conséquence inattendue de ces vents qui viennent de l'ouest, ce Boeing de British Airways qui a battu tous les records de traversée de l'Atlantique entre New York et Londres en 4h56, 2 heures d'avance sur l'horaire annoncé. Le précédent record d'un vol commercial hors Concorde, évidemment, était de 5h13. Deux Airbus ont également fait mieux ce dimanche. Cette tempête Ciara, on y revient dans un instant avec la route et le bulletin météo. D'abord, à Los Angeles, le grand soir des Oscars, à 17h local, 2h du matin en France, le tout Hollywood sur son 31, Tarantino, Scorsese ou Sam Mendes à qui la statuette du meilleur film, le sud-coréen Bong Joon-ho pourrait jouer Les Parasites avec son film du même nom, ce qui serait une première, mais les Français ne sont pas absents avec 7 nominations dont Les Misérables dans la catégorie des films étrangers, avec aussi 2 films d'animation plébiscités par le public américain, dont J'ai perdu mon corps, dont on a déjà beaucoup parlé, mais il y a 5 autres nommés français. Loïc Piala à Los Angeles.
Si Netflix a dépensé plus de 100 millions de dollars sur The Irishman de Martin Scorsese, c'est en partie à cause de lui. Avec ses équipes d'ILM, Stéphane Grappelli a rajeuni Robert De Niro et Joe Pesci à l'écran, une technique encore jamais utilisée à cette échelle. Voilà cet ingénieur au spectaculaire CV de Star Wars à Jurassic World nommé aux Oscars. Il n'est pas le seul français dans la catégorie. Guillaume Rocheron a supervisé les nombreux effets spéciaux de 1917, récompensé pour l'Odyssée de Pi il y a 7 ans. Il devrait ajouter une statuette à sa collection, en croire les prédictions dans la presse américaine. Le format court révèle la diversité de la production hexagonale. Bruno Collet s'est distingué avec Mémorable, un film d'animation en stop-motion sur un vieil homme souffrant de démence, pendant qu'Yves Pia a tourné Nefta Football Club, une comédie sociale sur 2 jeunes frères tunisiens. Et puis, il y a l'habitué des lieux, Alexandre Desplat, 11 nominations déjà et 2 statuettes à son actif. Le compositeur a signé la musique des filles du Dr. March, mais celle de Joker à la faveur des pronostics. À Los Angeles, Loïc Pia pour France Inter.
Avec une bonne tisane pour suivre ses Oscars, Loïc Pia. Pierre-là, s'il vous plaît. C'est l'étoile mystérieuse, comme aurait dit Hergé. Le Soleil livrera peut-être quelques-uns de ses secrets à la sonde Solar Orbiter qui sera lancée dans la nuit du Cap Canaveral en Floride, sonde européenne qui emporte à son bord toute une panoplie d'instruments qui pourront peut-être permettre aux scientifiques de comprendre les turbulences observées sur l'astre solaire. La sonde, dont le voyage doit durer 2 ans, s'approchera, façon de parler, à 42 millions de kilomètres du Soleil et surtout pourra, c'est une première, elle pourra le regarder directement. Dans un instant, le bulletin météo. D'abord, sur les routes, cette tempête Ciara ne peut pas ne pas avoir de conséquences. Noémie Philippot, l'A85 par exemple est fermée entre Tours et Angers.
Oui, c'est coupé après Tours depuis le milieu d'après-midi. Alors, pour le coup, ici, c'est pas la tempête encore. C'est un camion qui a perdu une partie de son chargement. Des bouteilles de gaz se sont retrouvées sur la route. En Rhône-Alpes, il faut être patient pour rentrer des stations de ski en direction de Lyon. Ça bouchonne sur la 43 à partir de Chambéry. Des ralentissements aussi au nord d'Aix-en-Provence sur la 51 entre l'échangeur 17 de Cadarache et Mérargues. Et puis, si vous roulez dans le nord de la France, c'est là que c'est le plus compliqué avec la tempête Ciara. Des alertes au vent violent sur les autoroutes A29 et A13 autour de Rouen. Et beaucoup de vent aussi en région parisienne, soyez prudents.
Noémie Philippot, au PC Mobilité de Radio France Le Temps.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes, toutes naturelles, cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton, et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Jean-Michel Golinski.
Un vent soufflant en tempête jusqu'en fin de nuit prochaine du nord de la Loire au quart nord-est et plus particulièrement sur tous les départements de la zone en vigilance orange, à la fois pour le vent fort jusqu'à 140 km à l'heure probable sur les côtes et les crêtes, 120 en plaine, et pour le risque de vagues submersion sur les littoraux. Il faudra attendre la matinée de demain pour que l'intensité des rafales faiblisse, mais dans l'ensemble, elle va quand même rester assez vive, entre 80 et 100 km à l'heure en général, et même 130 l'après-midi sur la Corse, également en vigilance orange, d'autant plus que sur l'île, le vent va nettement se renforcer dans la nuit de lundi à mardi. Cette journée de lundi sera souvent instable, ponctuée d'averses plus nombreuses et parfois orageuses dans la moitié nord du pays, avec de la neige sur l'ensemble des massifs à moyenne altitude. Seule une mince bordure méditerranéenne va conserver des éclaircies durables.
En rappelant les pointes enregistrées cet après-midi à Barfleur, dans la Manche, 137 km/h. Ce soir, des liaisons TER sont interrompues en Alsace et les vols suspendus à l'aéroport de Lille. 19h17, on passe au sport. Avec vous Cédric Guillou, bonsoir.
Bonsoir Yves, bonsoir à tous.
Et Teddy Riner, qui donc n'est plus invincible.
Eh oui, le plus célèbre des judokas français a perdu un combat, ça ne lui était plus arrivé. Depuis le 13 septembre 2010, le colosse aux 10 titres mondiaux et aux 2 médailles d'or olympiques a été battu cet après-midi au 3e tour du tournoi de Paris. Jean-Pierre Blimaud.
Teddy Riner s'est fait piéger dans le temps additionnel de son 3e combat face au japonais Kageura, 10e mondial chez les lourds, alors que le géant français attaquait pour le faire tomber. Riner au tapis, mais pas choqué.
Choqué, c'est quand l'adversaire vous met dans le vent, est plus fort que vous, et vous met à hippon. Là, j'aurais fait « Oh, parce que j'ai pris une bête en face de moi ». Non, là, c'est pas passé. Mais il faut comprendre pourquoi c'est pas passé. Il faut se dire aussi « Ben voilà, tôt ou tard, ça allait arriver ».
Absent de Bercy depuis 2013, Teddy Riner voulait entamer son année olympique devant son public, peut-être un peu trop tôt pour Cyril Marais, membre de l'équipe de France.
Je le vois s'entraîner, c'est pas le Teddy que j'ai pu connaître auparavant. Je pense qu'il a l'intention de mettre les bouchées doubles un peu plus tard dans la saison et il n'était pas prêt.
Pas de panique, rétorque son entraîneur Franck Chambilly. Il avait prévenu que Teddy Riner n'était pas à 100% et pas assez affûté.
Il est un peu planté dans le tapis, mais ça allait venir. C'est Teddy qui perd, c'est pas le japonais qui gagne, c'est comme ça. Mais il faut rebondir derrière.
Pour être prêt le 31 juillet à Tokyo, afin d'être à la hauteur de son rêve olympique, Teddy Riner veut maintenant travailler dur et enchaîner au moins 2 autres compétitions. Car pour avoir une chance, il doit arriver au jeu parmi les têtes de série. Et pour cela, il faut marquer des points durant la saison internationale.
Teddy Riner qui voudra faire un lors des JO de Tokyo, comme le japonais Tarahiro Nomura, qui est le seul judoka triple champion olympique de l'histoire.
Tout va bien en revanche pour l'équipe de France de rugby qui a donc gagné 35 à 22 face à l'Italien. Je me suis trompé dans le score tout à l'heure.
Voilà, deuxième match, deuxième victoire effectivement Yves pour les Bleus dans le tournoi des 6 nations après l'Angleterre la semaine dernière. Les Bleus ont battu l'Italie donc 35 à 22 effectivement. Bonsoir Vincent Pellegrini.
Bonsoir Cédric.
En direct du Stade de France, c'est une victoire attendue Vincent pour les Bleus. Hein.
Oui, encore fallait-il confirmer ce statut de favori. Et c'est ce qu'a réussi ce 15 de France qui a rapidement pris les devants. Deux essais signés Teddy Thomas et Charles Olivon. 13-0, puis une période de relâchement qui a permis aux Italiens de revenir à 13-10. Et puis les Français ont de nouveau creusé l'écart avec deux nouveaux essais synonymes de points de bonus offensifs. La deuxième mi-temps a été inégale avec une équipe italienne accrocheuse qui a inscrit deux essais. Score final donc 35-22. Guy Acosseberry, vous êtes le consultant rugby de France Inter. L'essentiel est acquis, mais le 15 de France était un peu branché sur courant alternatif aujourd'hui.
Oui, après une belle entame, comme vous le disiez, une entame qui nous a rassurés, qui les a mis dans de bonnes conditions, avec un jeu agréable, simple, mais efficace, bien huilé. Et après, on a vu une équipe de France avec quelques ratés en conquête, on a vu trois touches de suite perdues, on a vu une deuxième mi-temps plus approximative, un peu hachée au rythme des Italiens. Voilà. Après, ce qui est rassurant quand même, c'est que même quand l'Italie s'est rapprochée au score, quand cette équipe d'Italie a réagi, l'équipe de France ne s'est pas affolée, et de suite a repris le score, enfin, s'est remis à distance de cette équipe d'Italie. Donc on sent quand même une certaine maîtrise, on l'a senti au moins pendant ce match-là. Maintenant, attendons le prochain match qui sera vraiment un vrai test.
Et c'est la première fois depuis 2016 que les Bleus débutent ce tournoi avec deux victoires. Ils sont en tête du classement à égalité avec l'Irlande et se profile désormais un déplacement très périlleux dans deux semaines au Pays de Galles.
Et ce sera le 22 février. Chez les féminines, les Bleus ont largement battu les Italiennes hier 45-10. Le match se déroulait à Limoges.
D'autres Bleus qui gagnent, Cédric, l'équipe de France féminine de basketball qualifiée pour les JO de Tokyo.
Oui, les Bleus qui ont réalisé de belles performances durant 4 jours au tournoi de qualification olympique qui se déroulait à Bourges. Et après Londres en 2012 et Rio il y a 4 ans, l'équipe de France devient une habituée de ce rendez-vous olympique qui représente et reste tout de même pour les joueuses le graal de leur discipline. Noureddine Zidane.
On va commencer à apprendre le japonais peut-être.
Andy Miem aura donc la possibilité de vivre ses 3e JO de suite, mais la capitaine des Bleus n'est en aucun cas blasée.
Se dire qu'on qualifie la France pour aller aux Jeux Olympiques, la compétition reine qui est regardée par le monde entier, pour nous c'est quelque chose d'énorme et avec moi en tant que capitaine, c'est on va dire le petit truc en plus.
Marine Fautou a des étoiles dans les yeux à la simple évocation du rendez-vous olympique qui serait une première pour elle.
Ouais, c'est la compétition rêvée. Forcément, il y a la médaille d'argent des filles en 2012. J'avais 11 ans, donc je ne me rappelle pas trop, mais du coup, je me rappelle que des Jeux de Rio et forcément, on y pense dans un coin de la tête. Ce serait vraiment énorme de le faire. Mais voilà, après, c'est pas parce qu'on est dans les 12 aujourd'hui qu'on sera dans les 12 des Jeux.
Diandra Chachuang est bien placée pour en parler. Elle qui a raté à 2 reprises le bon wagon pour les Jeux.
Je vais sur mes 29 ans et j'ai pas eu la chance de participer aux JO encore. Les derniers, je me suis blessée à 6 mois de la compétition. Donc pour moi, c'est particulier, mais j'essaye de pas trop y penser.
Avec une ambition non feinte, décrocher une médaille. À Bourges, Noureddine Zidane, France Inter.
Et aujourd'hui, les Bleus ont terminé en beauté. Elles ont écrasé Porto Rico 89-51.
En foot, suite et fin de la 24e journée de Ligue 1.
Cet après-midi, Montpellier a battu Saint-Etienne 1-0. La victoire également de Strasbourg 3-0 devant Reims. Et puis ce soir, l'affiche Paris-Saint-Germain-Lyon. Bonsoir Jérôme Cadet.
Bonsoir Cédric, bonsoir à tous.
Alors le match va bien avoir lieu, hein, Jérôme, malgré la météo venteuse.
Oui, du vent, de la pluie sur le parc, mais ce match aura bien lieu. Le délégué de la Ligue de football professionnel et les représentants des deux clubs se sont réunis tout à l'heure à 17h et ont décidé de maintenir cette rencontre, considérant que le Parc des Princes protégerait le jeu du vent. La préfecture de police de Paris, elle a estimé qu'il n'y avait pas de risque pour les spectateurs. Plus de 40 000 attendus ce soir au Parc des Princes.
Alors je disais affiche, Jérôme, plutôt que choc, hein, vu l'écart au classement entre les deux formations.
Affiche européenne en tout cas, c'est certain, puisque ces deux équipes sont encore en lice en Ligue des Champions. Paris jouera à Dortmund dans 9 jours, Lyon recevra la Juve dans un peu plus de 2 semaines et cette rencontre de ce soir peut faire figure de test. Pour ce qui est du duel en championnat, il n'y en a pas. Paris est leader de cette Ligue 1 avec 25 points d'avance sur Lyon. La faute aux moyens financiers, on a appris cette semaine que le joueur le mieux payé de l'effectif parisien, Neymar, touche 3 millions d'euros par mois, c'est-à-dire 7 fois plus que Memphis Depay, le joueur le mieux payé de Lyon. Deux joueurs qui ne seront pas sur la pelouse ce soir, mais au-delà de ce déséquilibre économique, c'est surtout la faiblesse lyonnaise cette saison qui inquiète. Aucune victoire face à une équipe de haut de tableau, d'où la crainte de l'entraîneur lyonnais Rudy Garcia de prendre une correction. Ce sont ses mots. L'an dernier, Paris avait battu Lyon 5-0 ici même avec un quadruplé de Kylian Mbappé qui sera bien lui sur la pelouse à partir de 21h.
Jérôme Cadet en direct du Parc des Princes où ça souffle, on l'a entendu.
On l'entend.
Le coup d'envoi du match 21h.
En tennis, ça gagne pour Gaël Monfils à Montpellier.
Victoire en 2-7 cet après-midi pour le Français. 7-5, 6-3 contre le Canadien Pospisil. C'est le 9e titre de sa carrière, le 3e à Montpellier après 2010 et 2014.
Je fais un match solide aujourd'hui. Vasek, il jouait très bien aujourd'hui, je trouvais, parce que je m'attendais qu'il fasse plus de fautes quand même. Il était, chaque fois, j'avais l'impression qu'il était sur un fil, sur son jeu de service, mais finalement, il n'était pas forcément sur un fil. Il était à son niveau, je pense. Donc, ça s'est joué sur certains points, certains détails. Et encore une fois, beaucoup de réussite de sa part et de ma part. Encore une fois, quelques points et quelques prises de risques au moment important qui ont fait que je pense que j'ai pu gagner aujourd'hui.
Gaël Monfils qui jouera demain à Rotterdam, c'est un tournoi qu'il avait gagné l'an dernier.
Un monde du sport, Cédric, très perturbé encore ce week-end par les affaires d'abus sexuels.
Oui, au lendemain de la démission de Didier Gayaguet, désormais ex-président de la Fédération Française des Sports de Glace, eh bien toutes les fédérations se sentent concernées et réagissent, à l'image de la Fédération Française de Ski qui compte près de 110 000 licenciés. Son président Michel Vuillon.
Les secteurs sont touchés, après le cinéma, le monde de l'édition, le sport est aussi touché. Donc faut être très humble par rapport à ça, parce que c'est des phénomènes de société. Et ça peut être partout. Alors c'est au sport de glace, ça peut arriver demain matin un peu n'importe où. On est tous vigilants. Encore une fois, on est éducateurs avant tout. On a le souci d'éduquer des jeunes dans la fédération, aux équipes de France, mais aussi dans les régions, dans les clubs. Donc bien sûr qu'il y a les mesures sont prises pour effectivement éviter tout ce phénomène navrant.
Ça vous encourage à rehausser le niveau d'alerte ?
Bien sûr, il faudra à tous les niveaux, pas que dans le sport. On voit bien que les langues se délient et c'est bien. Donc logiquement, on doit tous être responsables de ça et tous être encore plus vigilants. Donc nous, on le sera aussi, bien sûr.
Michel Vuillon, président de la Fédération Française de Ski, au micro France Inter de Guillaume Batin.
Et pour terminer ce journal des sports, Cédric, le reportage de la semaine nous emmène en Martinique.
Et on va y découvrir, Yves, la Yole, le bateau traditionnel de la Martinique, cette embarcation en bois qui aujourd'hui est en quête de reconnaissance mondiale et l'île se mobilise pour la faire rentrer au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Le dossier doit aboutir cette année et pour appuyer cette candidature, une grande compétition de yole a été organisée ce week-end et plusieurs skippers de renom venus de métropole ont prêté main forte aux équipages dans un exercice très périlleux. Reportage en Martinique de Jérôme Val.
Le départ depuis la plage idyllique du Diamant au sud de l'île est déjà une épreuve en soi. Franchir les vagues et ne pas chavirer dans une mer hachée, la yole, c'est d'abord une histoire d'équilibre. 14 ou 16 hommes et femmes à bord qui font office de balanciers sur une embarcation de bois de 10 mètres de long, sans quilles. Jean Le Cam, 4 Vendée Globe à son actif.
Au niveau cohésion d'équipe, je crois qu'il n'y a pas d'équivalent. Parce que là, il faut vraiment de la coordination, tout bouge en permanence. C'est hallucinant, quoi.
Une cohésion de groupe qu'apprécie aussi Loïc Perron, marin aux multiples records.
Ouais, c'est génial. Alors là, pour le coup, j'apprends le créole. C'est tellement bien. Quand ils annoncent stérilisé et tout, c'est super.
Le Cam, Perron, quelques-uns des grands noms invités sur cette compétition baptisée les Barrés de la Yole. Gilles Lamiré, vainqueur de la dernière Transat Jacques Vabre, est aussi venu.
De toute façon, nous, on est des grands gamins. On a des grands jouets et ça c'est un très beau jouet. Floristique, plus simple aussi, il n'y a pas 36 000 réglages de voile, mais c'est très ludique je trouve.
La yole de Martinique saura cette année si elle entrera au patrimoine mondial de l'UNESCO, un geste attendu par Edouard Tinogus qui pilote cette mission.
La yole est un monument identitaire et en cela elle a toute son importance pour les Martiniquais.
La fête ce week-end, mais maintenant l'attente, la réponse de l'UNESCO tombera en octobre prochain. Le Diamant, Jérôme Val, France Inter.
Voilà, encore quelques mois à attendre donc Yves.
Et décidément toujours dans les bons coups, Jérôme Val. C'était le journal des sports de Cédric Guillou, merci.